À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Saint Jean de Damas, ou Saint Jean Damasène, comme on l'appelle souvent. C'est un Syrien, puisqu'il est de Damas. Et il était surnommé Mansour. La grande famille des Mansour, extrêmement puissante à son époque, à une époque où justement les musulmans venaient d'arriver dans ce pays et en dirigeaient les destinées. Il a été nommé docteur de l'Église à la fin du siècle dernier par Léon XIII. C'est un saint qui est commun à l'Église orthodoxe et à l'Église catholique. Nous le célébrons ensemble aujourd'hui, en ce 4 décembre. Saint Jean Damasène, qui est mort en l'an 750. C'est vraiment un personnage de conte, dans un sens, car il y a des légendes qui entourent sa vie, mais on a des éléments extrêmement sûrs. Si on cherche sa date de naissance, on n'en est pas sûr. On calcule 675-680, ça dépend des ouvrages. Il est né à peu près à ce moment-là. Il est raisonnable, donc, de supposer qu'il a vu le jour dans le troisième quart du septième siècle. À l'époque, dans ce temps-là, donc, la Palestine et la Syrie sont aux mains des Arabes musulmans qui ont été fondés quelques années plus tôt, n'est-ce pas, par Mohammed. Depuis 661, l'an 661, Damas est devenue la capitale de ce qu'on appelle le califat omeyyade. On revoit ce mot très souvent, omeyyade. Il y a là une circonstance importante parce que la vie de Jean Damasène ne se déroule pas dans l'empire chrétien, mais en terre d'islam, ce nouvel islam, l'islam qui vient de conquérir son pays. C'est très, très, très particulier. C'est plutôt pénible quand on y pense. Si on regarde dans le bréviaire, hier, je m'excuse, j'ai accordé à Saint François-Xavier un magnifique texte de Saint Jean Damasène. Ma page était mal tournée dans mon bréviaire. On dit que dans le bréviaire que Jean travaillait à Damas dans l'administration arabe quand il entendit l'appel de la vie monastique vers 710, donc vers l'âge de 35 ans. Et il s'est fixé au monastère de Saint-Saba, ce qui était très important, dans le désert de Juda, donc en Palestine, d'où il ne sortait que pour prêcher à Jérusalem. Et c'est là qu'il a écrit son exposé de la foi orthodoxe, que je vous ai lu en partie hier, et je vous lirai aujourd'hui des choses extrêmement intéressantes, car c'est lui le grand défenseur des icônes. À une époque où on voulait détruire toutes les icônes, si vous avez des icônes chez vous, si elles existent toujours, ces icônes, si on en a conservé la mémoire et si on en a fabriqué d'autres dans l'esprit de prière comme on le fait, ces icônes sont faites par les orthodoxes en général et maintenant aussi par des catholiques dans un grand sentiment de prière. Eh bien, c'est grâce à Saint Jean Damasène qu'il les a défendus avec vigueur. Il a défendu ce qu'on appelle le culte des saintes images. Jean, je vous ai dit, avait un autre nom, Mansour, ou Mansour, M-A-N-S-O-U-R, en arabe, ça veut dire le victorieux. Ça veut dire aussi simplement le fils de Mansour. Que Jean se soit appelé Mansour, dans ce cas, Jean serait un deuxième nom ou un nom de religion, quoi. Ou fils de Mansour, enfin, dans les deux hypothèses, on tient un renseignement d'importance, car la famille Damasène des Mansour nous est relativement bien connue. Je vais vous faire un petit résumé très bref de l'importance de cette famille extraordinaire. Le patriarche Eutychius, dans des textes qu'il nous a laissés, les annales, nous apprend en effet qu'un certain Mansour, fils de Serge, Mansour avait été préposé par l'empereur Maurice, qui est mort en 602, lui, à la perception des impôts de Damas. C'est un rôle très important. Une espèce de ministre des Finances, ou le percepteur des impôts. Toute la ville de Damas, c'est grave. Et cet important personnage pourrait être le grand-père de Saint-Jean Damascène. La famille de Jean, de Saint-Jean Damascène, tout en restant chrétienne, avait préféré, chose étrange, avait préféré à la domination byzantine qui venait de Constantinople, là, qui était jugée trop lourde, ils avaient préféré l'occupation arabe. Un peu comme des gens préfèrent l'occupation, ont préféré, après la conquête aussi, l'occupation anglaise à la direction française. Ça existe dans notre histoire. C'est la même chose, là. Le grand-père de Jean Damascène était l'un de ces Arabes chrétiens qui formaient une part importante de la population de la Syrie byzantine à l'époque. Hein, ça veut dire orthodoxe, si vous voulez. Mansour et sa famille, sous les nouveaux occupants musulmans, là, les Arabes, continuent à jouir d'une situation privilégiée. Serge, fils de Mansour, là, semble avoir joué dans l'administration de l'argent, là, de la perception des impôts, l'administration fiscale arabe, là, un rôle important. De toute façon, il y a quelqu'un, Théophane, qui nous dit encore que Serge était un bon chrétien et que c'est lui en particulier, écoutez bien, qui a fait renoncer le calife Abd al-Malik au projet épouvantable d'envoyer à la Mecque, en Arabie, les colonnes de l'église de Gethsémani. Oui, il y avait une église à Gethsémani qui commémorait la douleur de Jésus. Et les colonnes ont failli partir, mais heureusement, grâce à l'ancêtre de Saint-Jean Damascène, elles sont restées là. Enfin, un fils de Serge, peut-être Jean Damascène lui-même, a été le compagnon des plaisirs du futur calife Yazid. Il y a un auteur arabe aussi du 10e siècle, Aboul Faraj al-Isbahani, qui montre en particulier de quelle réputation jouissait la maison des Mansour auprès d'Abd al-Malik et du chrétien Aktal, le poète favori de celui-ci. C'est curieux, hein? Le musulman, grand chef, avait un chrétien comme poète favori. Curieuse époque. Aktal dit, le chrétien l'a dit au calife, poète chrétien, qui dit « J'étais chez votre secrétaire, le fils de Serge. » Et le calife lui demande d'où il vient, puis c'est pour ça qu'il dit ça. Et le calife lui dit « Ah, tu connais les bons endroits et que t'a-t-on servi ?» Il lui répond « Du pain de semoule comme celui que vous mangez, sire, les viandes les plus délicates et du vin de betteras. » C'était du vin très recherché dans cette époque, il y a bien longtemps. Et de ces documents ressort donc une image inattendue puis intéressante de ce qu'a été l'enfance. Oui, c'est pour ça que je vous parle de ça, l'enfance de Saint-Jean Damascène à Damas. Une jeunesse dorée, quoi, dans un milieu raffiné et cultivé où les musulmans puis les chrétiens coexistent pacifiquement, ce qui peut nous étonner. Que Jean, Saint-Jean Damascène, arabe chrétien, en fait, fonctionnaire à la cour des califes, ait pu devenir un écrivain grec raffiné et fécond. C'est un paradoxe, mais seulement en apparence. Le grec était sans doute une langue très, très, très cultivée dans la bonne société chrétienne de Damas, non seulement parce qu'elle était liée au christianisme, parce que le grec était lié au christianisme, remplacer le latin dans des régions, mais aussi parce qu'elle était, sous les premiers califes, la langue de l'administration. Dès le début du christianisme, le grec est d'une importance majeure. Les actes du concile de Nicée II nous décrivent la conversion de Saint-Jean à la vie monastique, car cet homme est un peu comme Charles de Foucault. De la richesse, il passe à la pauvreté absolue. Il se fait moine. Jean, dit le texte dans les actes du concile de Nicée II, Jean, que les iconoclastes, ceux qui veulent détruire toutes les icônes, toutes les représentations du Christ et de la Vierge et des Saints, appellent injurieusement Mansour, c'est-à-dire le victorieux, ayant tout quitté, imitant en cela l'évangéliste Matthieu, qui a suivi le Christ. Il jugea que les injures, dit le texte, supportées au nom du Christ, étaient une richesse plus grande que les trésors de l'Arabie. Et il a préféré partager les tribulations du peuple de Dieu plutôt que de profiter pour un temps des jouissances que procure le péché. Et, ayant suivi le Christ depuis l'Orient, il se fit par le Christ le héros du Christ et de la cause du Christ. C'est la fin de la citation de ce texte. Donc, l'intérêt principal de ce texte est d'attester que Saint Jean Damascène, avant de se faire le propagateur du Christ, le défenseur du Christ, le héros du Christ, avant donc les débuts de la crise iconoclaste qui va éclater en l'an 726, c'est là qu'il y a cette guerre épouvantable entre les gens qui veulent plus des icônes et ceux qui y tiennent. Eh bien, il avait quitté Damas pour se faire moine en Orient. On a de lui une vie écrite en grec qui précise que Jean se serait retiré à la Grande Laure, si vous voulez, le grand monastère de Saint-Sabas. La Grande Laure a été fondée au 5e siècle par Saint-Sabas, à 15 kilomètres au sud-est de Jérusalem. Et c'était l'un des plus puissants monastères du désert de Juda. Elle a survécu à l'occupation perse et ne semble pas avoir eu trop à souffrir de l'invasion arabe musulmane. Saint Jean Damascène a pu y trouver là la tradition de culture, puis la riche bibliothèque, sans lesquelles l'existence de son œuvre serait absolument incompréhensible. C'est alors qu'il est moine à Saint-Sabas que Saint Jean Damascène a l'occasion de gagner la confiance du patriarche de Jérusalem, Jean V, qui est mort en 735. Ce Jean V, patriarche, ordonne Jean comme prêtre et l'investit sans doute d'un ministère de la parole, dont témoigne d'ailleurs l'importance œuvre oratoire de notre auteur que l'on retrouve dans la patrologie grecque de Migne, dont je vous ai déjà parlé. Hein? Ce prêtre extraordinaire du siècle dernier qui a imprimé toute la patrologie latine, toute la patrologie grecque. Les écrits. À Saint-Sabas, donc dans ce monastère, encore, Jean a pu se lier d'amitié, comme le veut la tradition, avec Cosmas, que l'on considère souvent comme son frère adoptif et qui par la suite deviendra évêque de Mayuma, qui Jean va dédier sa principale œuvre dogmatique, la source de la connaissance. On retrouve ça dans des écrits des sources chrétiennes. En 730, Saint Jean Damascène se trouve alors dans l'entourage de ce patriarche Jean V de Jérusalem et parle, pour ainsi dire, au nom de ce patriarche. Il prend une part notable au début de la querelle des images, là, dont je veux vous parler, qui vient d'éclater en 726 et qui va agiter toute l'Église d'Orient, l'Église qu'on appelle orthodoxe aujourd'hui. À cette époque, c'était l'Église d'Orient, puisque nous étions l'Église d'Occident, eux l'Église d'Orient, la seule et même Église, une Église unie. Jusqu'à plusieurs siècles plus tard, jusqu'en 1054, hein, nous sommes même remis ensemble pendant quelques années, dans les années 1400. C'est dommage qu'on ne puisse pas être unis aujourd'hui. Alors, tout ça va agiter l'Église d'Orient pendant un siècle, cette guerre. Le 17 janvier 1730, là, l'empereur Léon III, qui, depuis l'an 726, quand ça a commencé, montre clairement son hostilité aux images, y promulgue une loi qui interdit le culte des images. Il dépose le patriarche de Constantinople, le chef de l'Église orthodoxe, si vous voulez, s'appelle Germain. Il le dépose parce qu'il s'oppose à la volonté du roi, de l'empereur. Et Jean Damascène prononce alors un premier discours sur les images, bientôt suivi d'un deuxième, antérieur à 1633, date de la mort du patriarche Germain, puis un troisième, de date inconnue, trois grands discours pour défendre les icônes. On lui doit beaucoup, comme vous voyez. Et cette vigoureuse défense de l'orthodoxie va valoir à l'empereur Jean l'anathème du synode iconoclaste d'Hiraea en 754, c'est-à-dire un anathème qui va être répété chaque année et inversement auprès des partisans des images, qu'on appelle, c'est drôle, les iconodules. Bon, les partisans des images, des icônes, eh bien, les trois discours vont valoir à Jean le titre de docteur de l'Église, comme je vous ai dit. Et le septième concile de Nicée II, en 787, va réhabiliter la mémoire de Jean Damascène. Puis, on dit que la Trinité a glorifié les trois principaux défenseurs des icônes. La date de la mort de l'empereur Jean nous est inconnue. Pour ce qui est de cette légende au sujet de Jean Damascène, je tiens à vous la raconter parce qu'elle est très belle. C'est toujours beau, ces légendes de saints d'autrefois. Surtout celles de rien, il me semble, sont encore plus belles. On a des données partielles, donc, que je vous ai données sur la vie de Saint Jean Damascène. Ça laisse dans l'ombre bien des points essentiels de la biographie de Jean Damascène. On ne sait pas au juste quand est-ce qu'il est mort. On n'a pas de date fixe, lui non plus. Et il convient de confronter l'image que l'on a de lui, de détail, que le dossier des vies de saints qu'on a à son sujet nous donne. La légende de Saint Jean Damascène, sous sa forme la plus ancienne, est représentée par deux récits. Une vie grecque, comme je vous ai dit, puis une vie arabe. La vie arabe est l'œuvre d'un prêtre, Michel d'Antioche, un moine au monastère de Saint-Siméon, qui, prétendant qu'il n'existait ni en grec ni en arabe de vie du saint, bien, s'est mis au travail en l'an 1085. Son enfance légendaire est très, très intéressante. Pour l'enfance du saint, la légende rejoint, en les romançant peut-être, et en omettant les noms propres, les données de l'histoire. On a les données de l'histoire dans cette légende. Les seuls renseignements nouveaux, quoi, c'est que le père de Jean aurait confié l'éducation de son fils et d'un fils adoptif, Cosmas, là, le futur évêque de Mayuma dont je vous ai parlé, à un moine qui avait racheté aux musulmans Côme l'Ancien. Alors, après la mort du père de Saint Jean Damascène et de Côme l'Ancien, le prince des Sarrasins, des musulmans, prend Jean comme premier conseiller. C'est alors que celui-ci, par des lettres là, qu'il écrit pour défendre les images, s'attire l'hostilité de l'empereur iconoclaste, là, Léon III. Et c'est à ce moment que se produit le miracle de la main coupée. Qu'est-ce que c'est ça, le fameux miracle de la main coupée, qui est extrêmement populaire en Orient? Mais je vous le raconte. L'histoire de la main coupée, qui a été traduite ici d'après la vie de Jean Damascène, qu'on voit dans les Pères grecs de Ming, justement, dans le tome 94, à partir de la colonne 456, ça a connu, tant en Orient qu'en Occident, une grande popularité. Un Jean qui vivait alors à Damas, dans l'entourage du calife, lutte contre l'iconoclasme naissant par des lettres qu'il fait circuler dans l'Empire byzantin. Et l'empereur Léon III, qui peut pas atteindre cet adversaire, qui est Jean Damascène, se trouve hors de son pouvoir, use un stratagème. Dans une lettre au calife, il accuse Saint Jean Damascène de trahir son maître. Et pour étayer cette accusation, qui est une pure calomnie, il joint à sa lettre un faux billet, fabriqué par la chancellerie impériale, où Jean promet à l'empereur de lui ouvrir les portes de Damas. Comme si Saint Jean ouvrirait les portes de Damas à l'empereur ennemi. Le calife, ayant reçu les deux lettres, convoque Jean. C'est le texte que je vous lis là. Le calife, ayant reçu les deux lettres, convoqua Jean et lui montra le billet forgé. Jean, Saint Jean Damascène, l'ayant parcouru, convint que l'écriture ressemblait à la sienne quant au contenu. Quant au contenu, il lui était inconnu et ne lui serait jamais venu à l'esprit. À la lecture, il voyait bien que c'était là une ruse et une attaque de l'empereur, mais le prince ennemi des chrétiens était à l'égard de ce que disait Jean, un âne qui entend une lyre. Hein? Un âne qui entend une lyre, il comprend rien, il entend rien, au fond. Hein? C'est un proverbe de là-bas, ça. Alors, il fermait l'oreille à toutes les paroles vraies et bonnes de l'empereur. Mais il ne fut pas muet pour prononcer une injuste sentence. Et sur le champ, il ordonna que l'on coupa à Jean la main droite. Et comme celui-ci demandait qu'on lui donnât un peu de temps pour se défendre et pour montrer que l'empereur impie était son ennemi enragé, mais le barbare que la fureur mettait hors de lui ne le voulut ni ne l'accepta, et donc on coupe la main droite, qui réfutait les ennemis du Seigneur. Et au lieu de l'encre qu'il atteignait, elle était teinte de l'encre, quand elle écrivait des discours sur le culte des images, eh bien, elle est maintenant teinte, dit le texte des Pères de l'Église, elle est maintenant teinte de son propre sang. Je continue ce texte qui date de très longtemps, comme vous voyez. Une fois qu'eut été coupée cette main droite du Seigneur, pour ainsi dire, on l'a suspendue sur la place publique. Quand le soir fut tombé, Jean, conjecturant que la colère du tyran touchait à son terme, envoya vers celui-ci une députation pour présenter la supplique que voici. Voici la supplique. La douleur s'aggrave et m'est insupportable, et la violence de la souffrance ne s'apaisera pas aussi longtemps que ma main coupée sera suspendue en l'air. Ordonne qu'on me la rende pour que je l'enterre et que cessent mes vives douleurs. Alors le tyran tout de suite cède à cette prière et l'on rend au juste sa main. L'ayant prise, il entre dans l'oratoire de sa maison et tombe la face contre terre devant une image divine portant le divin caractère de la Mère de Dieu. Ayant placé la main coupée contre l'articulation où elle était naguère, du fond du cœur, Saint Jean de Massène implorait la Vierge de miséricorde, s'écriant avec des gémissements et des larmes, « Notre-Dame, Mère toute pure, qui a enfanté mon Dieu, à cause des divines images, voici ma main coupée. Tu n'ignores pas pourquoi Léon est en furie. Vite donc, sois-moi secourable, guéris ma main. » Comme Jean disait cela en pleurant, il s'endort. Il voit la sainte image de la Mère de Dieu le regarder avec des yeux bienveillants et souriants. Elle dit, voici, ta main est guérie, ne tarde plus désormais. Qu'elle devienne le calame d'un copiste à la rapide écriture. Une fois réveillé et guéri, Jean examine sa main coupée et la voyant guérie, il exulte d'une joie spirituelle en Dieu son Sauveur et en sa Mère, parce que le Puissant a fait pour lui des merveilles. Debout, il tend les mains au ciel et entonne un chant divin approprié à cette circonstance. Toute la nuit, il se réjouit avec toute sa maison, chantant à Dieu un chant nouveau d'action de grâce. « Ta droite, Seigneur, dit-il, a été glorifiée dans sa puissance. Ta droite a guéri ma droite, et par elle tu frapperas tes ennemis, ceux qui n'honorent pas ta vénérable image, les icônes, n'est-ce pas, ni celle de ta mère. Et par l'abondance de ta gloire, tu briseras par moi tes ennemis, les briseurs d'images. » Alors, avec sa main coupée et reconstituée miraculeusement, il va pouvoir défendre les icônes qui sont attaquées. Alors, à la suite de ce miracle, le calife veut rétablir Jean Damascène dans ses fonctions. Mais celui-ci obtient qu'on le laisse libre de se consacrer à la vie de moine. Il préfère être pauvre, être moine. Il vend alors tous ses biens, il distribue sa fortune aux pauvres, et en compagnie de Côme, le jeune, ou Cosmas, le jeune, il se retire dans ce monastère de Saint-Sabas, comme je vous ai dit plus tôt, une laure, L-A-U-R-E, c'est comme ça qu'on appelle ça, en langage de l'Église orientale. Le supérieur de la laure confie Jean à un saint vieillard qui le forme à l'ascèse la plus sévère. Il lui impose en particulier un silence très rigoureux. Et Jean, tout obéissant qu'il soit, commet cependant une faute. Pour consoler un moine qui vient de perdre son frère, imaginez, il compose un chant funèbre. Il me semble qu'il n'y a rien de mal là-dedans, mais c'était jugé comme mal puisqu'il manque au silence. Le maître de Jean, apprenant cela, chasse son disciple et celui-ci, pour rentré en grâce, accomplit dans la laure, dans le monastère, les tâches les plus humiliantes, ce qui lui vaut le pardon et les compliments du vieillard. On raconte aussi à son sujet que le vieux moine dans le monastère auquel il s'adresse lui dit: nous avons là quelques corbeilles en feuilles de palmier que nos frères ont tressées dernièrement. Vous les prendrez, frère Jean, vous les porterez au marché de Damas et ne les céderez pas à moins de 2 pièces d'argent chacune. Il lui dit: mais père, je me rendrai à Damas et tâcherai d'y vendre les corbeilles. Mais 2 pièces d'argent chacune, laissez-moi observer que jamais personne ne consentira à les payer aussi cher. Elles ne valent pas le quart de ce prix-là. Mon fils, vous m'avez dit avoir dessein de vous exercer à l'obéissance, alors faites ce que je vous ai dit. Puis Saint-Jean de Massine part donc, très loin pour cette ville de Damas, où naguère il avait vécu dans l'opulence, entouré des gardes de la part des habitants, puis il était vêtu d'une robe grossière, d'un vêtement abominable, tout rapiécé, il portait les corbeilles sur son dos. Puis arrivé sur la place du marché, il attend. Une femme s'approche. Elle dit: combien vaut corbeilles? Il dit: 2 pièces d'argent. Elle dit: ça, c'est pour toutes les corbeilles. Il dit: non, non, c'est pour chacune d'entre elles. Alors, elle lui dit: vous vous trompez, mon pauvre frère. Vous avez mal compris l'ordre de ceux qui vous ont envoyé. Il dit: j'ai bien dit 2 pièces chacune, et je ne saurais les donner à moins. Alors, la femme s'éloigne, et 3 fois, 10 fois, toute cette scène se renouvelle, et le marchand de corbeilles, ce pauvre Jean Damascène, devient à la longue la risée publique, et on le montre du doigt. Allez donc voir ce fou, dit-on. Alors, on fait cercle autour de lui pour l'injurier, puis s'y porte tout sans répondre. Et cela dure une grande partie de la journée, puis enfin, un de ses anciens serviteurs, car il y avait beaucoup de serviteurs, l'ayant reconnu, est touché de pitié. Il fait cesser toutes les moqueries qui l'accablent. Il lui achète les corbeilles au prix exorbitant, et puis, dont Saint-Jean de Massène ne pouvait pas démordre. Et Saint-Jean de Massène a repris alors le chemin de Saint-Sabas, ce monastère près de Jérusalem, moins content de l'argent qu'il rapportait que de la victoire qu'il avait acquise sur lui-même, nous racontent ces vieilles légendes. J'espère que ça vous intéresse, ces saints qui ont vécu bien longtemps. Hein. Je vous ai dit qu'il avait été appelé également Mansour, en arabe, ça veut dire le victorieux. Il appartenait donc à une famille noble des Mansours et il s'est fait pauvre. C'était le nom de son grand-père Mansour, et puis il est docteur de l'Église. Hein. C'est lui qui a défendu les icônes, comme je vous ai dit, je vais tout vous raconter ça. Là. Il est né à Damas, dans le troisième quart du 7e siècle, vers 675-680, puis il est mort à Saint-Sabas, près de Jérusalem, dans un monastère, en Palestine, quoi, avant 754. Il est fêté le 4 décembre, à la fois par l'Église orthodoxe et par l'Église romaine, l'Église catholique. La Vierge apparaît à Saint-Jean de Massine. Pardon. Elle apparaît plutôt à ce vieillard dont je vous ai parlé là dans le monastère. Puis elle lui enjoint de laisser Saint-Jean de Massine libre de composer des hymnes. Il imitera les hymnes des chérubins, fera de toutes les églises les filles de Jérusalem, de jeunes joueuses tambourins qui chanteront à Dieu un cantique nouveau, dit le vieux texte, proclamant la mort du Christ et sa résurrection. Alors le vieillard promet donc à Jean de rompre le silence et de donner libre cours à son talent, parce qu'il était supposé garder le silence perpétuel, un peu comme les trappistes, il n'y a pas si longtemps, à aucun ne parlait jamais. Sauf pour des nécessités. Alors, à partir de ce jour, de cette permission qui lui vient de son supérieur, celui du vieillard, là, Saint-Jean de Massène, dit le texte, se met à composer les divines mélodies, à chanter les cantiques doux comme le miel qui ont illuminé l'Église orthodoxe. Cosmas, de son côté, rivalise avec Jean de Damas par la beauté de ses hymnes sacrés. Il devient bientôt évêque de Mayouma, comme je vous ai dit, tandis que Jean est ordonné prêtre par le patriarche Jean de Jérusalem, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Et cette dignité nouvelle ne gonfle pas Jean d'orgueil. Tout au contraire, revenu au monastère de Saint-Sabas, il redouble d'ascèse. Son action en faveur des images est attestée par le martyr Étienne le Jeune qui, à Constantinople, l'a appelé Théophore. Ça veut dire porteur de Dieu. C'est un très grand compliment, être porteur de Dieu. Mais au fond, nous sommes tous porteurs de Dieu. Mais nous sommes plus ou moins conscients. Dieu est en nous. Qu'en faisons-nous? Maintenant, dit le vieux texte, après avoir ainsi vécu dans la sèse, Jean est auprès du Christ qu'il aime et qu'il peut adorer non plus en image, mais face à face. Pour ce qui est de l'œuvre de Jean Damascène, on dit que Jean Damascène est un écrivain prolixe dont les œuvres couvrent la plupart des domaines de la littérature sacrée. On a pu voir que la légende de Jean Damascène, la vie légendaire là, que je viens de vous lire, faisait une grande place à l'œuvre poétique et musicale du saint. Il a écrit des hymnes, etc. Et de fait, les hymnes liturgiques de saint Jean Damascène ont connu dans l'Église byzantine un vif succès. Le talent de saint Jean s'est exercé également dans l'éloquence. On voit dans les trois discours dont je vous ai parlé tout à l'heure, les discours sur les images, mais aussi d'autres compositions sur les fêtes du Christ et de la Vierge. La tradition qui unit étroitement la sainteté de saint Jean de Damas et sa piété mariale se fonde sur des éléments solides. Il y a une homélie sur la nativité de la Vierge qu'il a écrite, j'en ai le texte devant moi, pour le 8 septembre, et trois autres sur la dormition. C'est une façon de parler de la mort de la Vierge. La dormition, elle s'endort et elle est enlevée par les anges au ciel, l'Assomption. Mais tout ça témoigne de cette dévotion de saint Jean pour la Marie. Ça fait de leur auteur un docteur important pour la mariologie, spécialement dans le dogme de l'Assomption. Puis enfin, il y a trois panégyriques de saint Jean Damascène qui sont consacrés à des saints. Il a écrit sur saint Jean Chrysostome, sainte Barbara, ça pourrait en intéresser parce qu'il y en a qui me demandent de parler de sainte Barbara, et de sainte Anastasie. Mais si Jean Damascène est illustre en Occident, c'est beaucoup et surtout à ses œuvres théologiques qu'il le doit, hein? Aux côtés de nombreux traités polémiques, là, de disputes et de discussions, puis de traités dogmatiques, il convient de faire une place spéciale à ce livre dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure, « La source de la connaissance », où Jean compile et synthétise l'enseignement traditionnel de l'Église. C'est très intéressant à lire pour voir comment on synthétisait à l'époque la foi de notre Église. L'œuvre dogmatique de saint Jean Damascène ne se réduit pas à des compilations ni même à l'exposé le systématique de la doctrine traditionnelle. Non, non. Son enseignement sur les saintes images montre qu'il sait développer puis enrichir la tradition. Tout ça dans une direction originale, hein, et les circonstances historiques sont connues. J'ai parlé de l'empereur Léon III qui est appuyé par une partie importante de son Église et qui a promulgué en 730 une loi qui interdit le culte des images. À cette hérésie iconoclaste sur laquelle je veux revenir, là, vient de faire son apparition officielle et pour les briseurs d'images, le Christ, la Vierge, les saints ne doivent pas être représentés. C'est pour ça qu'ils brisent les images. Parce qu'ils disent que ça doit pas être représenté. Puis que les honneurs rendus à leurs images sont assimilés à de l'idolâtrie. Ça explique pourquoi il y a eu cette querelle. Hein? C'est à ces attaques, donc, que saint Jean Damascène va répondre. Et il se dresse comme ça, hors de l'Empire, contre un empereur, dont il juge qu'il a, en intervenant ainsi dans les questions de dogme, commis un abus de pouvoir. De quoi se mêlait cet empereur? Hein? Les trois discours contre les calomniateurs des images ont, pour ainsi dire, substantiellement le même contenu. L'image pour Jean Damascène, et ça c'est très important parce que souvent même des protestants nous accusent d'avoir des statues, des images et d'attacher de l'importance à ça et nos crucifix. Ils ont de la difficulté à comprendre ça. C'est Jean Damascène qui est déjà à cette époque, il y a plus de 1000 ans, à expliquer tout ça. L'image pour Jean Damascène se définit, écoutez bien, comme une ressemblance reproduisant les caractéristiques du prototype. Bon. Quelles sont les caractéristiques de Jésus? Quelles sont les caractéristiques de Marie? Ben, c'est une ressemblance qui reproduit les caractéristiques, tout en différant, évidemment, du Christ et de la Vierge en quelque chose, dit-il. Cette définition permet de dégager trois éléments fondamentaux de l'image. Il y a une ressemblance, il y a une origine, l'image naît du prototype, comme une empreinte dans la cire vient du sceau. Il y a une différence avec le prototype, il faut bien le reconnaître. Il y a, pour Saint-Jean-de-Massène, plusieurs sortes d'images. La plus parfaite est le Fils, en tant qu'image du Père. La moins parfaite est l'image, au sens où nous l'entendons habituellement, représentation figurée d'un objet ou d'une personne absent ou passé. Alors on notera que chez Saint-Jean-de-Massène, l'opposition entre image naturelle puis image artificielle ne joue pas un grand rôle. Du premier, là, le Fils, au dernier type d'image, il semble qu'il y ait une continuité et que l'image soit conçue comme participant de son modèle d'une façon plus ou moins parfaite. L'image, l'icône, participe de son modèle, le Christ. L'image, l'icône, participe de son modèle, Marie ou les saints. De même que Saint Jean de Massène définit l'image et les divers types d'images, bien, il distingue diverses sortes de cultes. Il dit bien que l'adoration est réservée à Dieu seul. Bon, c'est clair. Mais un culte des saints, des reliques, des images est généralement possible, dit-il, dans la mesure quoi où il s'agit de rendre honneur. C'est tout simple, c'est simple. Il s'agit de rendre honneur à des hommes ou à des objets habités par la grâce. Le culte des images n'est pas une adoration, dit-il. Et le reproche d'idolâtrie est injustifié. C'est un culte relatif qui, de l'image, remonte au prototype. Cette dernière proposition empruntée par Saint Jean de Damas à Saint Basile de Césarée se retrouvera constamment dans l'argumentation des partisans des images. L'image en tant que matière, là, elle ne mérite ni adoration. Personne dans l'Église orthodoxe, personne dans l'Église catholique, à moins d'être complètement étrange, n'adore ces objets. C'est réservé à Dieu seul. Et on ne les méprise pas, ces objets, parce que c'est l'œuvre de Dieu, en quelque sorte. L'image est pleine de grâce divine qui s'attache à la matière, parce que l'image porte le nom, dit Saint Jean Damascène, de ce qu'elle représente. Tout comme le saint est digne d'honneur, parce qu'il est habité par l'Esprit-Saint, mais l'image mérite un culte en tant que matière imprégnée de grâce. C'est ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'une belle icône est imprimée de grâce. Un beau crucifix est imprimé de grâce. Une belle statue de Notre-Dame. Oui, c'est imprimé de grâce. N'ayons pas peur. À l'argumentation que nous venons de schématiser, là, bien, Jean ajoute des arguments. Il y tire de l'Écriture sainte puis de la tradition. Il joint à ses discours tout un florilège de citations qui attestent contre les iconoclastes l'ancienneté du culte des images. Et surtout, aux côtés de la tradition écrite, il revendique une place pour la tradition non écrite des Églises. Puis enfin, il convient de signaler la place spéciale que Saint Jean Damascène fait à l'image du Christ. Parce que celle-ci est possible, oui, en tant qu'image du Dieu homme, parce que Dieu s'est incarné. Il dit bien que nier la possibilité de cette représentation en image, c'est s'attaquer au dogme de l'incarnation, puisqu'il s'est incarné dans un corps. Et ça tombe dans la pire hérésie, dit-il. Faut pas oublier qu'en Orient, la mémoire, en Orient, c'est-à-dire dans l'Église orientale, chez les orthodoxes, là, la mémoire du saint est liée tout d'abord à son intervention contre les iconoclastes. Le saint Jean Damascène se révolte contre les iconoclastes. À Saint-Sabas, dans son monastère, là, on conservait la mémoire du saint. Plusieurs siècles après sa mort, là, vers 1106-1107, il y a un igoumène russe, Daniel, qui vient de Russie, évidemment, et qui visite la grande laure de Saint-Sabas. Il voit la tombe du saint. Et puis, elle est là, la tombe du saint. Elle est vénérée, mais en 1400... Dans le même monastère, on ne montre plus que la cellule où a vécu Saint Jean Damascène. Pourquoi? Parce que ses reliques ont été transportées à Constantinople à une date inconnue. En Occident, chez nous, là, si la légende de Saint Jean Damascène a été connue, c'est à son œuvre théologique que le saint doit principalement la notoriété. Son œuvre théologique est magnifique. D'ailleurs, elle a été utilisée par Saint Thomas d'Aquin. la source de la connaissance, là, ça contribuait à sa célébrité. C'est l'œuvre de Saint Jean Damascène. En 1890, le pape Léon XIII a honoré Saint Jean Damascène du titre de docteur de l'Église, a fixé sa fête au 27 mars. C'était le 27 mars autrefois, si on voit ça dans les vieux livres. Mais depuis 1969, donc il y a une trentaine d'années, Saint Jean Damascène est fêté le 4 décembre par l'Église de Rome, l'Église catholique qui a rejoint en cela l'usage de l'Église orthodoxe. C'est un hommage légitime à un docteur de l'Église, qui est commun à nos deux Églises, je le répète, malheureusement séparées. On peut se demander ce que disait Saint Jean Damascène au sujet du culte des images, vraiment. Je vous ai expliqué un peu, parce qu'en luttant contre les premiers iconoclastes, pour qui était suspect d'idolâtrie, là, quiconque rendait un culte aux saintes images, Jean Damascène discerne très bien et très vite le lien qui existe entre le culte des images puis le culte des saints. Il dit, ou bien supprime les fêtes commémoratives des saints, ou bien accepte les images. De fait, l'hérésie iconoclaste met en jeu la conception même de la sainteté. Comme cela devient évident, avec le successeur de Léon III, l'empereur Constantin V, qui est mort en 775 et qui va chercher à interdire l'usage du mot « agios », qui veut dire « saint », appliqué à un homme. Il veut supprimer les saints. Et vous savez que dans les églises protestantes, depuis le 16e siècle, il n'y a plus de canonisation de saints. On n'appelle plus saints que les saints qui ont déjà été canonisés avant. Et encore, on préfère parler de Jacques et non pas de Saint-Jacques, souvent, sauf chez les Anglicans. Hein. Les Anglicans ont gardé les titres de saints, mais ils n'ont pas de canonisation. C'est dommage. Mais les Russes orthodoxes canonisent toujours des saints. Il dit, Saint Jean Damascène, je vous lis ce texte un petit peu long, mais qui résume toute la question. Écoutez bien, c'est très important. Souvent, on nous accuse d'avoir des icônes, d'avoir des statues dans nos églises, etc. Mais il écrit, lui, déjà, c'est vers 733. Nous représentons le Christ notre roi et notre Seigneur. Sans le dépouiller de son armée, l'armée du Seigneur, ce sont les saints. Que l'empereur, là, qui s'oppose aux icônes, que l'empereur terrestre se dépouille de son armée et qu'alors seulement il dépouille son propre roi et seigneur. Parce qu'il reproche à l'empereur de vouloir dépouiller Dieu de son armée, entre guillemets, qui sont les saints. Il ajoute qu'il dépose la pourpre et le diadème, et qu'alors seulement il supprime l'honneur dû à ceux qui ont régné sur leur passion. En effet, s'ils doivent être héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, de la gloire et de la royauté divine, comment, sur la terre aussi, les amis du Christ ne participeraient-ils pas à sa gloire? Je ne vous appelle pas serviteurs, dit Dieu, vous êtes mes amis. Allons-nous donc les priver de l'honneur que leur accorde l'Église? Il n'y a rien de mal à canoniser des saints, il y a des gens qui nous reprochent ça. Il le dit bien, lui. Allons-nous donc les priver de l'honneur que leur accorde l'Église? Ô bras rebelles, ô l'esprit téméraire qui s'élève contre Dieu et qui agit contre ses commandements, si tu n'honores pas l'image, tu n'honoreras pas non plus le Fils de Dieu qui est l'image vivante du Dieu invisible et sa parfaite réplique. J'honore l'image du Christ comme étant celle du Dieu incarné, celle de la Théotokos, Marie, la mère de Dieu, celle de la Théotokos, maîtresse de l'univers, comme étant celle de la mère du Fils de Dieu, celle des saints comme d'amis de Dieu qui, jusqu'au sang, ont lutté contre le péché, qui ont imité le Christ en versant leur sang pour celui qui avait d'avance versé son sang pour eux et qui ont réglé leur vie sur la sienne. Et Saint Jean Damascène ajoute, c'est magnifique, il écrit de façon magnifique, je trouve, mais enfin, « Je grave leurs exploits et leurs passions, parce que par eux, je suis sanctifié et préparé à les imiter avec ardeur. Et à ces choses-là, j'accorde révérence et vénération, car l'honneur accordé à l'image remonte au prototype, dit le divin Basile de Césarée. » Si tu ériges des temples en l'honneur des saints de Dieu, érige aussi leurs trophées. Jadis, on n'érigeait pas de temples en l'honneur des hommes. La mort des justes n'était pas fêtée, mais pleurée, et celui qui touchait un mort, fût-ce Moïse lui-même, était réputé impur. Mais aujourd'hui, nous fêtons la mémoire des saints. On a pleuré sur le cadavre de Jacob, mais la mort d'Étienne est l'objet d'une fête. Et donc, ou bien supprime les fêtes commémoratives des saints, faites contrairement à l'ancienne loi, ou bien accepte aussi les images qui sont, à ce que tu prétends, contraires à cette loi. C'est superbe. Il a écrit des choses absolument sublimes. Et pour la fête, ce qu'on appelle le Petit Noël, la naissance de Marie, le 8 septembre, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, il a écrit « Aujourd'hui, l'amour l'emporte. La crainte disparaît. Que chante la cithare du Saint-Esprit. Joie dans le ciel. Exulte la terre. » C'est le psaume 96. « Aujourd'hui s'ouvrent les portes de la stérilité. » En parlant de Marie, il parle de la naissance de Marie. « Aujourd'hui s'ouvrent les portes de la stérilité. Aujourd'hui s'avance une porte virginale, toute divine. » C'est très poétique, c'est très... on a besoin de notre imagination pour comprendre ce qu'il dit. C'est à partir d'elle que doit venir dans le monde, en son corps, le Dieu qui règne au-delà de tout. Aujourd'hui, de la racine de Jessé jaillit une tige, d'où sortira et s'élèvera pour le monde une fleur qui sera unie substantiellement à la divinité. Aujourd'hui, le fils de l'artisan du monde, le Verbe qui accomplit tout, le bras puissant du Dieu très haut, s'est construit par l'Esprit-Saint une échelle vivante dont la base est plantée en terre, dont le sommet s'élève jusqu'au ciel. » Il parle de Marie. Dans des termes tellement extraordinaires, c'est du surréalisme superbe et de toute beauté. Il écrit aussi « Sur elle, Dieu repose. C'est elle dont Jacob a contemplé la figure. C'est par cette échelle vivante que Dieu est descendu, s'inclinant avec condescendance, se rendant visible sur la terre et conversant avec les hommes. Aujourd'hui, l'échelle spirituelle, la Vierge Marie, est plantée en terre, et de cette terre, elle tient son origine, mais sa tête s'élève jusqu'au ciel. C'est aujourd'hui qu'est édifiée la porte de l'Orient, qui va donner au Christ entrée et sortie. En elle est le Christ, la porte des brebis, le véritable Orient, par qui nous avons accès près du Père, principe de la lumière. Aujourd'hui, s'est mise à souffler la brise de Dieu annonçant la joie de l'univers. Que la nature bondisse de joie, que danse le cœur des vierges. Elle est née, la Vierge qui, selon Isaïe, doit concevoir et enfanter un fils, l'Emmanuel, Dieu avec nous. » Oui, c'est du Saint Jean Damascène écrit il y a plus de 1000 ans, c'est inouï. Bon, je vous cite encore, j'ai le temps. Oui, quelques secondes. Cet Esprit Tout-Puissant, parle de l'Esprit-Saint, cet Esprit Tout-Puissant, splendide, incorruptible, procède de la lumière incréée, de la substance que le Père transmet au Fils. Aujourd'hui, il manifeste aux nations cette lumière qu'il puise dans la divinité. Enfants de l'Église, fils de la lumière, recevez la rosée enflammée de l'Esprit-Saint, et par elle la rémission et l'affranchissement de vos péchés. Pour nous, nous n'avons qu'un cri. Toi, ô Esprit-Saint, qui renouvelle divinement l'univers, sois béni. Seigneur, tu vois ma déchéance et ma douleur, verse sur moi, le pécheur, la grâce de ton Saint-Esprit. C'est tout du Saint Jean Damascène qui date d'environ l'an 730-740. Ô riche Église orientale, riche Église sœur, Église orthodoxe admirable,